Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Nous voici dans la seconde partie du magazine radiophonique Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que chaque samedi à partir de 7h25, heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours et avec nos invités ici présents au studio et au téléphone. Nous essayons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs implications sur le vécu quotidien de la population congolaise. Dans la première partie de ce magazine, chacun de nous a émis un commentaire sur un fait d'actualité qui a retenu son attention pendant cette semaine finissante. Et nous avons également commenté l'actualité du séjour du président américain sortant Joe Biden en Angola par la matérialisation du projet du réseau ferroviaire de Lobito du 2 au 4 décembre dernier. Et dans cette seconde partie du magazine Regard sur l'actualité, deux thèmes feront l'objet d'analyse, à savoir la poursuite des combats entre les M23, entre les FARDC et les M23 dans le sud de Lubero, au Nord Kivu, et les hommages rendus à la bienheureuse Anwarit Nengampeta par le chef de l'État Félix Tshisekedi, 60 ans après son assassinat. Participe à ces rendez-vous Ernest Mukuli, il est directeur des programmes de la radio Ebenezer et correspondant à l'agence France Presse Kisangani. Maître Charles Kabuya, il est juriste senior et avocat international. Et puis nous avons ici au studio à Kinshasa, Jerry Ngua, qui est rédacteur en chef du média en ligne APAMEDIA. Le premier sujet de cette seconde partie regard sur l'actualité de la semaine concerne la reprise des combats entre les FARDC et les M23 à Lubero. Au Nord Kivu, les combats se poursuivent entre les FARDC et les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais dans les villages de Outoué et Matembe situés à environ 60 km de Lubero centre. La situation reste tendue et les populations continuent de fuir la zone des affrontements vers les localités jugées plus sûres. Comment analysez-vous cette situation? Nous commençons par vous, Ernest Mukuli. Nous rappelons que vous êtes directeur des programmes de la radio Ebenezer et correspondant de l'agence France Presse Kisangani. À vous la parole, cher Ernest.
Merci, Tati. Je vais parler comme Congolais, pas comme journaliste, cette fois-là.
Allez-y.
Vous savez, Tati, des fois, j'ai du mal. Je commence à vouloir décider de ne plus parler de la question de la guerre à l'est du Congo. Pourquoi? C'est parce que nous tournons en rond. Le diable est là. Ce n'est pas une guerre du Congo. Ce n'est pas une guerre voulue par les Congolais. Mmh. Ce n'est pas une guerre acceptée par les Congolais. C'est une imposition extérieure. Ok, ce sont des joueurs de dames qui sont dans les pays occidentaux. Ce sont eux qui décident. C'est aujourd'hui qu'on va créer le M23. C'est aujourd'hui qu'on va créer les RCD, c'est aujourd'hui qu'on va créer les CNDP, c'est aujourd'hui qu'on va alimenter les groupes armés. Vous pensez vraiment, sur cette planète, une rébellion peut tenir devant les forces armées d'une nation sans l'appui extérieur? Ça ne tiendra pas. Cette guerre, Tati, c'est juste continuer à rendre la République démocratique du Congo pauvre. Tout ce que nous sommes en train de générer comme des revenus ici localement, même l'argent qui sortira du corridor de l'hôpital, cet argent ne servira pas à améliorer les conditions de vie des Congolais, et parce qu'on nous a imposé une guerre à l'Est. C'est difficile. Alors, très difficile, pour ne pas dire impossible, de compter sur tout le reste des sommets, des arrangements, je ne sais pas encore quel terme on peut utiliser ici. Tout ce qui se passe en Angola, tout ce qui se passe en Nairobi, ce sont juste des pièces de théâtre pour continuer piller les ressources de la République démocratique du Congo, les ressources qui sont supposées être épuisables dans les jours à venir. Voilà pourquoi on ne veut pas qu'on puisse se débarrasser de cette guerre pour que les Congolais vivent en paix. Nos frères et sœurs de l'Est puissent connaître une paix durable. ce n'est pas l'affaire du gouvernement congolais. Ce n'est pas l'affaire des groupes armés. C'est l'affaire des hommes et femmes qui sont dans les officines là-bas, dans les pays qui fabriquent tout ce qui est téléphone, tout ce qui est matériel électronique. S'ils avaient vraiment besoin du Congo, s'ils avaient l'amour de Dieu, ils n'allaient pas continuer à accepter à ce que l'Est de la RDC croupisse dans la misère.
Oui, mais chers collègues, en même temps aussi.
Depuis que Mobutu a accepté que c'est les gens qui étaient commis à la mort au Rwanda là-bas puissent quand même trouver refuge ici chez nous, bien sûr, avec l'influence des Occidentaux, ça on ne peut pas se les cacher. Et depuis lors, nous avons commis une grosse bêtise alors en acceptant que ces réfugiés rwandais puissent venir ici chez nous. Et aujourd'hui, tout le temps, c'est les Rwandais qui reviennent sur les FDLR, FDLR, FDLR. On nous a amené les FDLR qui ont passé plus de 2 années ici à Kisangani, au camp général Bauma. Et tous ont été rapatriés. Voyez, à un certain moment, il faut qu'on arrête de continuer à mentir. Il y a des milliers d'auditeurs qui me suivent. C'est parce que peut-être vous êtes au niveau de l'Est, de l'Ouest du pays. Mais les gens souffrent. Fort malheureusement, tous ces pays qui bénéficient des minerais, parce qu'il n'y a rien de groupes armés, vous ne trouverez jamais les groupes armés là où il y a les plantations de palmes. Vous voyez, il y a toujours là où il y a les minerais. Et ces minerais vont où c'est? Ça ne va pas à Kinshasa, je vous assure. Et notre pays reste ouvert. Regardez avec le couloir des hôpitaux. C'est l'ouverture de l'État congolais pour toute personne parce que il y a de la place pour tout le monde. Mais je ne pense pas que pour avoir ces corridors de l'hôpital, il fallait nous créer de la rébellion, il fallait entretenir de la rébellion pour qu'on puisse céder cette partie-là, ou bien qu'on donne le feu vert en fermant les yeux. Non, c'est en toute responsabilité que le président Tshisekedi a accepté que ça puisse, ces corridors puissent apporter aussi une partie des solutions au problème que le Congo a.
Oui, merci beaucoup Ernest Moukouli. Nous vous gardons en ligne et rappelons que vous êtes directeur des programmes de la radio Ebenezer et correspondant de l'agence France Presse Kisangani. Vous avez analysé à froid cette situation de la reprise de la guerre à Lubero, au Nord Kivu. Maître Charles Kabuya, je me tourne vers vous et rappelle que vous êtes juriste senior et avocat international. Quelle est votre perception des faits sur cette situation de la guerre de l'Est du pays?
Ah là là, mon cher ami, cette situation, c'est la plus grande tragédie en Afrique depuis la traite des Noirs. Je le dis bien, la plus grande tragédie parce que le nombre cumulé de morts est imbattable. Si on prend toutes les guerres de libération qu'il y a eu en Afrique, tous les conflits qu'il y a eu en Afrique, il n'y a pas eu autant de victimes. Même les génocides du Rwanda n'a pas causé autant de victimes.
Autant de morts. Et les génocides s'est arrêté, mais ici les conflits ne s'arrêtent pas.
Oui, oui, tout à fait. Et je suis d'accord avec notre ami, c'est Ernest, hein?
Ernest, oui.
Oui, notre ami. De ce chaos, beaucoup en tirent profit. C'est pourquoi cette guerre perdure. Il y a des gens qui tirent profit du chaos qui est savamment orchestré ici au Congo. On connaît le jeu, on connaît les acteurs. On connaît le deus ex machina, comme on dit en latin. C'est lui qui, ceux qui tirent les ficelles, les marionnettistes. Je suis vraiment sur cette situation. Je rappelle que j'ai écrit un livre dont le titre est Congo, terre d'enjeu, de la conquête coloniale à la quête d'un destin. Il y a un livre qui a connu un certain retentissement parce qu'il est référencé par certaines universités même à l'extérieur. Et tout a été annoncé depuis la prise de pouvoir en Ouganda et au Rwanda par Museveni et Kagame. ces deux présidents étaient présentés par Bill Clinton, dont l'administration est, c'est l'administration de Bill Clinton qui est responsable de tout ce qui est arrivé au Congo depuis la chute de Mobutu. C'est l'administration Clinton, démocrate, qui a organisé cette chute de Mobutu au lieu de, en lieu et place d'appeler à une renaissance du Congo après que Mobutu était, son régime était à la fin. Mmh. Nous avions un processus intérieur, interne, qui était la conférence nationale, et ce processus a été interrompu.
Arrêté.
Mmh. Interrompu par une expédition armée organisée pour venir destituer Mobutu et prendre possession du Congo. Heureusement que il y a eu quand même un sursaut de la part de celui qui avait été choisi. J'appelle ça une erreur de casting. Hein. Ils ont fait une erreur de casting en choisissant Laurent Désiré Kabila,
qui s'est ressaisi par après.
Un ancien lubumbiste qui n'a pas joué le jeu jusqu'au bout et qui en a payé de sa vie. Il a payé de sa vie. Donc c'est quelque chose qui a été orchestré depuis longtemps. On avait projeté à la chute de Mobutu de prendre possession de ce pays, de placer à sa tête des marionnettes. Tout le monde se souvient que ce fut l'actuel conseiller militaire principal de Kagame, qui est Diane Kabarebe, qui a été mis à la tête de l'armée, placé à la tête de l'armée. Bon, tout cela n'a pas réussi parce que nous avons en nous Congolais, un sursaut de nationalisme qui enfouit, qui est toujours en nous. Nous avons cet élan de nationalisme qui est toujours en nous et qui a fait que l'entreprise n'a pas réussi. Alors, ils ont changé de stratégie en instrumentalisant des Congolais, notamment avec les RCD. Ensuite, ils sont passés au CNDP, CNDP, M23, après M23, maintenant c'est l'ARC. On trouve toujours des nangas.
Oui, maître Charles, aujourd'hui, mmh. au fait, les conflits maintenant sont cantonnés au Nord Kivu et à Ituri. Et là, il y a des démarches diplomatiques qui sont entreprises au niveau de l'Angola pour amener les pays de la région venir au bout de ces conflits armés qui ne cessent.
Je vais y venir. Vous verrez que la carte de ces conflits. Et aussi, on peut la superposer sur la carte des minéraux qui sont dans le Nord Kivu. Mmh. Donc, c'est un conflit qui est là, qui est entretenu pour, comme disait notre ami Ernest, pour ponctionner, puiser les minéraux congolais. Et les processus de paix qui ont été mis en place ont tous échoué. Aujourd'hui, nous sommes dans le processus de Luanda. Mmh. Et on voit bien que les choses traînent. Les choses traînent pourquoi? Je me pose des questions. Je mets en parallèle l'Obito, le corridor de l'Obito. Parce que l'Angola, qui est une puissance militaire régionale, qui est à même de nous aider à stabiliser l'est du pays, c'est un pays qui aujourd'hui est à la tête de ce processus.
Malheureusement, maître, l'AFC et les M23, ils ont dit qu'ils sont pas concernés par ces processus. Malheureusement, ils sont en dehors de ces processus.
Ça, c'est un jeu politique. Ce sont des pensées, que ce sont des pantins, ce sont des marionnettes.
Oui, les temps s'égrènent vite. Oui. Merci beaucoup pour votre analyse, hein, maître Charles Kabuya. Bon. Nous rappelons que vous êtes avocat international. On vous garde en ligne. Je me tourne vers vous, Jirungua. Nous rappelons que vous êtes rédacteur en chef du média en ligne APAMEDIA. Quelle analyse faites-vous sur cette reprise des combats entre les FRDC et les éléments du M23 soutenus par les Rwandais à Lubero?
Tati, merci beaucoup et j'aime bien votre introduction. Il y a deux histoires que vous avez mentionnées. Vous avez mentionné Lubero et vous avez aussi mentionné soutenu par le Rwanda. Juste garder cette pensée, je vais y revenir.
D'accord.
Quand on étale la carte de la province du Nord Kivu, L'histoire nous renseigne que le M23, que ce soit le CNDP, toutes ces rébellions-là, soutenues par le Rwanda, ne sont pas conquérants. Ils ne viennent pas pour chercher des grands territoires. Ils restent toujours dans un coin
dans une zone minière
précis. Mm. Très bien. Ça, c'est une zone minière et tout cela. Je ne voudrais pas parler sur l'aspect économique. Hein. Et ils sont toujours là, à un seul endroit. Ils tournent là. Que ce soit le CNDP, le M23, 1, 2 et
CNDP.
Tout ce monde-là. Mais cette fois-là, vous voyez, il y a changement du paradigme. Le M23 commence à aller vers Lubero. Et
Lubero s'attend vers le sud qui vous.
Exact. Oh non.
Lubero s'attend vers le sud Kivu. On est au nord Kivu, mais s'attend vers le sud Kivu.
Ouais, parce que non. Il y a aussi, rappelez-vous, il y a eu des combats signalés en fin de semaine entre les FARDC et les Tiraneo au sud Kivu.
Au sud Kivu.
Ouais, vous voyez, donc la guerre est en train de s'étendre. Et ces poches de conflit là. Je pense que c'est fait à dessein pour déstabiliser
la région,
et surtout l'armée congolaise, les FARDC, parce que vous ne vous concentrez plus sur une cible, mais plusieurs cibles. Pourquoi je donne cette histoire? Là, vous voyez que le M23 commence à aller vers Lubero. Qu'est-ce que le M23? Parce que le M23 qui s'est dit avocat des peuples rwandophones congolais et qui va vers Lubero, sachant que Lubero c'est une zone Nandé, que je peux dire. Vous voyez. Qu'est-ce que le M23 va chercher là-bas. Et je pense que ça, ce sont les retombées des accords que l'AFC avec Nanga a eu avec le M23. Chercher aussi un fief où il va diriger. Rutshuru? Parce que dans le Rutshuru, c'est un fief du M23. Alors, cette guerre qu'ils sont en train de mener là, et ne nous voilons pas la face, ils sont en train de faire beaucoup de dégâts là-bas et tout mène à croire qu'ils vont garder une portion de terrain là-bas. Je pense que c'est pour installer l'AFC, pas la coordination, mais l'aile Nanga, avoir un fief où ils vont aussi avoir des revenus et tout cela, c'est créer de
une bastion, une base pour générer des revenus et continuer à alimenter.
Exact. Ouais. Et si nous rentrons dans le passé, on était étonnés de voir qu'il y a beaucoup de figures publiques qui ont rejoint Nanga alors qu'on pensait que le M23 était en défaite. Ben on s'est demandé, ça c'est un suicide ou quoi? Ben maintenant là nous commençons à comprendre.
Ça fait deux mouvements différents dans la même région.
Exact, oui. Et alors maintenant nous commençons à comprendre. Je ne voudrais pas citer des noms des gens, mais il y a aussi personnalités publiques nandé qui ont rejoint
l'AFC de Nanga
en dernière minute.
En dernière minute, oui.
Ouais. Alors, Nanga, sachant qu'il ne peut pas aller faire la guerre à Iziro, qui est son bastion, sa région de
provenance,
parce qu'il n'a pas de troupes. Nanga n'a pas de troupes.
Non.
Il dépend des troupes du M23 soutenues par le Rwanda. Okay? Alors, il ne va pas aussi s'affranchir. Pourquoi? Parce que peut-être que les accords ne permettent pas. Et pour avoir le soutien, il doit chercher
à
un bastion
là-bas, aller là-bas.
Toujours dans la même région afin que les renforts soient
beaucoup plus faciles
facile à parvenir. La seule façon, la seule manière de finir cette guerre, ça ne finira jamais dans le hall au accord de Luanda et tout cela. Cette guerre-là doit être finie d'une façon militaire. C'est par la guerre qu'on finira cette guerre. Aussi longtemps que les FARDC n'ont pas battu les forces négatives à l'Est, on ne sera jamais, jamais respecté. Prenez l'exemple de 2012-2013, lorsque les FARDC ont battu les M23, ils sont allés en repli jusqu'à ce qu'il remarque une certaine faiblesse pour retourner.
Merci beaucoup à vous tous d'avoir commenté cette actualité relative à la reprise des combats à Lubero entre les FARDC et les éléments du M23 soutenus par les Rwanda d'après le gouvernement congolais. Les troisième et les derniers thèmes de ce magazine concernent les hommages rendus à la bienheureuse Anwarit Nengapeta par les chefs de l'État Félix Tshisekedi 60 ans après son assassinat à Isiro dans la province du Haut-Ouélé. Le 1er décembre 2024 marque le 60e anniversaire de l'assassinat de la sœur Marie-Clémentine Anwarit Nengapeta, une figure emblématique de la foi catholique en RDC. À cette occasion, un culte d'action de grâce a été organisé à Isiro, lieu où sera érigé un sanctuaire en son honneur. La cérémonie, présidée par l'archevêque métropolitain de Kisangani, Monseigneur Marcel Outembi Tapa, a rassemblé de nombreuses personnalités dont le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Dans son adresse à la population, Félix-Antoine Tshisekedi a demandé à la population d'Isiro de ne pas accepter les rébellions. Comment commentez-vous cette nouvelle? Nous commençons par vous, Ernest Moukouli. Nous rappelons que vous êtes directeur des programmes de la radio Ebenezer et correspondant de l'agence France Presse Kisangani.
La présence du président de la République aux côtés des pères de l'Église catholique, vraiment c'est un signal fort de la considération et du respect que l'État congolais et nous tous, nous devons avoir envers cette martyre de l'intolérance, comme la bienheureuse Anwarit Nengapeta. J'ai eu la chance, à l'époque, j'étais l'attaché de presse du feu cardinal Laurent Monsengo Passigna. À l'époque, il était archevêque métropolitain de Kisangani. Mmh. Donc, j'ai eu cette chance de visiter la Maison Bleue. J'ai une petite histoire sur l'annualité. Dans notre radio ici, nous avons reçu des éminents personnalités qui parlaient de la vie d'annualité. Et ce qui m'a retenu, ce sont les vertus. C'est ces vertus-là qui peuvent aider aussi aujourd'hui les jeunes de ne plus prêter leur oreille à toute personne qui va leur proposer le ciel pendant qu'ils habitent ici sur terre. Alors, donc l'annualité, c'est un modèle d'abord de fidélité dans les engagements. Une bonne éducatrice, bienheureuse Anwarit, c'est des consciences professionnelles dans une société en crise comme celle qu'on a aujourd'hui, là où l'androïde devient le repère, le modèle par excellence en lieu et place de la grand-mère, de la tante, de la maman et des papas à la maison. Mmh. C'est aussi également, elle est un modèle de dévouement et de la disponibilité au service du prochain. Au service du prochain. Il y a beaucoup d'enseignements qui regorgent la vie d'Anwarit Nengapeta. Servir et faire plaisir. Vous voyez, c'était un modèle de l'humilité et de la simplicité. C'est pas pour rien le chef de l'État, il s'est déplacé avec la première ministre et une méga délégation du gouvernement de la République. Et dans les écrits, on soulève aussi qu'Anwarit est aussi un exemple par excellence d'une fille qui s'est fait respecter. Devant son bourreau, un certain Gallo, il avait dit non parce qu'elle faisait l'objet d'une violence sexuelle. Ça n'a pas commencé aujourd'hui cette histoire des groupes armés, les gens qui prennent toujours les armes pour venir s'en prendre aux Congolais et aux Congolaises sous prétexte qu'ils ont besoin de faire changer les choses, la bonne gouvernance, les machins. Pourtant, ce n'est pas le cas. C'est juste des gens qui sont utilisés pour piller nos ressources. Voilà pourquoi je disais, Anwarit, il nous inspire le respect aux droits de la femme. Elle est morte parce qu'elle a refusé qu'on puisse violer ses droits.
Merci beaucoup, cher collègue Ernest Moukouli. Nous rappelons que vous êtes directeur du programme de la radio Ebenezer et correspondant de l'agence France Presse Kisangani. On vous garde en ligne. Je me tourne vers vous, Charles Kabuya. Les temps se grainent vite. Vous êtes juriste, senior et avocat international. Comment analysez-vous les discours du chef de l'État Isiro, qui a également appelé les prélats catholiques à prier pour la paix à l'est du pays?
Oui, je voudrais d'abord tout rendre hommage à la bienheureuse Anwarit, qui tout le long de notre scolarité au Congo nous a été présentée, enseignée comme un exemple, un modèle de foi et de vertu. Et c'est une bonne chose que ces hommages lui soient rendus au plus haut sommet de l'État. Alors, concernant les discours du président de la République, je pense qu'il y a depuis un certain temps, mais bien avant cela, une sorte de conflit latent entre les pouvoirs politiques dans notre pays et l'Église, la hiérarchie de l'Église catholique. On se souviendra que à une certaine époque, le président Mobutu avait même déclaré le cardinal Malula persona non grata, qu'il fut exilé. Il est exilé à Rome. Les plus jeunes ne le savent pas.
Il y a un bras de
fer. Le cardinal a été expulsé du pays. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans du déjà vu.
Oui, donc, ces bras de fer ne datent pas d'aujourd'hui entre l'Église catholique et les acteurs politiques.
Moi, je me suis toujours posé la question parce que j'essaye d'analyser toujours en allant en puisant dans l'histoire. Je pense que cela est dû à une particularité de notre pays, c'est que l'Église catholique a été associée au pouvoir depuis
l'époque coloniale.
L'époque coloniale, oui. Cette Église a toujours interféré dans la politique et était même accusé à un certain moment d'être de concert avec les colons. Moi, j'ai lu des choses, notamment des écrits de l'ancien archevêque du Katanga, Monseigneur Mtine, qui avait des choses incroyables, qui disait que non, les Noirs ne sont pas aptes à être indépendants. L'archevêque, Monseigneur Mtine, écrivait cela. Il était contre l'indépendance. Donc, il y a une tradition dans l'Église catholique de se mêler de la politique, d'avoir son mot à dire, et cette tradition est perpétuée encore aujourd'hui.
Merci beaucoup, Maître Charles Kabuya. Nous rappelons que vous êtes juriste senior et avocat international. Je me tourne vers vous, Jerry Ngoua. Vous êtes rédacteur en chef du média en ligne APAMEDIA. Comment commentez-vous ces sujets à caractère politique et religieux du chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui a appelé la population du Sirot de ne pas céder au mouvement des rébellions? Également, il a demandé à l'Église de prier pour la paix à l'est de la RDC.
Exactement, et parce que là vous résumez en tout cas la troisième partie. Pourquoi? Parce que le chef de l'État, son itinérance dans le haut où elle est à Isiro n'est pas un fait bénin. C'est ça un fait très important, parce que rappelez-vous que le haut où elle est, c'est où Nanga du AFC et vient. Ça c'est son bastion.
Oui.
Nanga a fait deux actions. Lui
il est originaire de là d'ailleurs.
Il est originaire, oui. Et il a beaucoup investi dans l'agriculture et dans des tas de trucs. Et nous avons vu même autant de ciment à partir de sacs de ciment à partir de l'Ouganda qui allait chez Nanga et tout cela. Ben, vous voyez, c'était une visite très importante pour le chef de l'État. Pourquoi? Parce que en dehors d'honorer la mémoire de la bienheureuse Anwarite, il y a aussi, comme on dit dans le jargon du football, il est allé tacler Nanga chez lui.
Ah, je voyais pas la symbolique politique dans ce sens-là. Vous avez raison.
Alors, donc, c'était très important. C'est comme cela qu'il a même appelé à la population d'Iziro et de tous les où elle est, de ne pas céder à la guerre. C'était le message principal qui a amené le chef de l'État à Iziro. Bon, moi, je condamne pas. Pourquoi? Parce que la définition primaire de la politique à l'école primaire, si j'ai bonne mémoire, on nous parlait de l'art de diriger une cité ou société, vous voyez. Donc la politique n'est pas réservée
uniquement aux politiciens.
Non. Et qui est politicien d'ailleurs, hein, ça c'est une question. Et politicien, c'est celui qui est allé faire les sciences politiques ou est politicien tout celui qui s'intéresse
qui gère la société, aux questions de la société.
Ouais, vous voyez. Oui. Alors, et quand on parle de politiciens en Soudan, moi ça m'étonne pas. Le pape est un politicien, le pape est un chef d'État, par exemple, le pape François.
Exactement.
Mais c'est un politicien, et en Soudan d'ailleurs.
Exact.
On se pose la question parce que déjà quelques jours avant cette célébration, il y avait messe à Goma pour l'évêque émérite Ngoumbi, et le ministre d'État Aimé Boji a ramené le cadeau du chef de l'État à Goma, où il y a la guerre, où on se bat contre
le M23.
Et l'AFC. Oui, et l'AFC. Vous voyez, et ce sont des trucs comme cela. Et ça n'a pas traîné. C'est le même dimanche que le cardinal a lancé ce qu'il avait à dire. Bon, comme quelqu'un qui n'était pas est content. Bon, je vais dire quelque chose. C'est sur la...
Rapidement, parce que le temps est parti à l'émission.
Exactement. Ouais. Je vais parler de la prominence du message de l'Église catholique, parce que c'est pas tout le monde qui est d'accord avec le gouvernement. Hein, la prominence de ce message de l'Église catholique, c'est peut-être les réseaux catholiques qui est plus répandu, et peut-être aussi la répute qu'on donne aux leaders de cette Église. C'est comme cela peut-être que les opposants vont se joindre à l'Église catholique pour faire passer leur message.
Merci beaucoup à vous tous d'avoir analysé ces sujets si rapportant aux hommages rendus à la bienheureuse Anne-Marie Ngapeta par le chef de l'État Félix Tshisekedi, 60 ans après son assassinat à Isiro dans la province de Otouélé. Nous allons souffler un peu avec la musique, avec une chanson pour la bienheureuse Anne-Marie Ngapeta. De suivre un chant pour la bienheureuse Anne-Marie Ngapeta composé par M. l'abbé Jean-Pierre Mongambi. Et je profite de l'occasion également pour remercier vous, mes invités, avec qui nous avons analysé ces faits, les faits saillants aux fêtes de la semaine. Nos sincères remerciements à vous trois, Ernest Moukouli, directeur des programmes de la radio Ebenezer et correspondant de l'agence France Presse Kisangani, Maître Charles Kabuya, vous êtes juriste senior et avocat international, et Jeringoua, vous êtes rédacteur en chef du média en ligne APAMEDIA. Merci à vous trois d'avoir été là et excellent week-end. C'est par ici que s'achève le magazine radiophonique Regard sur l'actualité de la semaine. Tati Mapoukou était à la présentation de l'émission sous la coordination de Kelly Kouté. Martin Seboudjango était à la supervision et Paul Badianyama s'est occupé de la prise de son. À tous et à toutes, excellent week-end et à très bientôt. Au revoir à tous. We'll be right back.
Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Chers auditeurs et auditrices de Radio Okapi, bonjour et bienvenue dans votre magazine hebdomadaire regard sur l'actualité de la semaine. Nous sommes ravis de vous retrouver encore ce matin. Nous rappelons que chaque samedi à partir de 5h25 au heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités ici au studio et au téléphone, nous essayerons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs implications sur les vécu quotidiens de la population de la RDC. Aujourd'hui, pour justement passer en revue l'actualité de la semaine, nous recevons Ernest Moukouli, il est directeur des programmes de la radio Ebenezer et correspondant de l'agence France Presse Kisangani. Bonjour cher Ernest Moukouli.
Bonjour Tati, merci de l'invitation. Bonjour à tous les auditeurs de la radio de la paix.
Bienvenue dans Regard sur l'actualité. Maître Kabuya Charles, vous êtes juriste senior et avocat international. Vous faites également partie du panel de ces rendez-vous du Regard sur l'actualité de la semaine. Vous intervenez depuis la ville de Paris en France. Bonjour et bienvenue dans ces rendez-vous.
Bonjour Monsieur Tati, bonjour à tout le monde sur le plateau en studio et bonjour aux auditeurs de la radio Capi.
Je me tourne vers vous Jeringoua, vous êtes rédacteur en chef du média en ligne APA Media. Bonjour et bienvenue dans ces rendez-vous de la regard sur l'actualité de la semaine.
Merci, merci. Bonjour aux auditeurs de la radio Okapi et merci à vous Tati de m'avoir dans votre studio.
Tati Mapoukou, c'est moi qui présente ces numéros. Kéline Kouté coordonne ces magazines. Martin Seboujangwe est à la supervision du magazine Regard sur l'actualité de la semaine. Et Paul Badianyama s'occupe pour sa part de la prise de son. À toutes et à tous, bonne condition d'écoute du magazine radiophonique Regard sur l'actualité de la semaine de Radio Okapi.
Vous nous écoutez déjà en FM et sur toutes les plateformes digitales. Rejoignez-nous dès à présent sur le bouquet Canal+, au canal 572 pour Radio Okapi et au canal 573 pour Radio Okapi Enfant. Radio Okapi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Mesdames et messieurs, vous écoutez Regard sur l'actualité de la semaine, l'émission qui passe en revue l'actualité dominante au cours des 7 derniers jours de cette semaine qui est en train de finir. 3 thèmes sont au rendez-vous de ce magazine Regard sur l'actualité de la semaine, à savoir la visite du président américain sortant Joe Biden en Angola du 2 au 4 décembre dernier dans le cadre du projet de construction du corridor ferroviaire devant relier la République démocratique du Congo, la Zambie et l'Angola. La poursuite des combats entre les FRDC et les M23 dans le sud de Lubero au nord Kivu et les hommages rendus à la bienheureuse Anoarite Ningapeta par le chef de l'État Félix Tshisekedi, 60 ans après son assassinat. Je rappelle que cette émission connaît la participation d'Ernest Moukouli, il est directeur des programmes de la radio Ebenezer et correspondant de l'agence France Presse Kisangani. Maître Charles Kabuya, il est juriste senior et avocat international. Jeringoua, il est rédacteur en chef du média en ligne APA Media. Avant d'analyser ces 3 grands thèmes ayant dominé l'actualité cette semaine, j'accorde à chacun de vous 1 ou 2 minutes pour commenter une nouvelle, une actualité qui a retenu votre attention cette semaine finissant ici au pays ou à l'étranger. Je commence par vous, Ernest Moukouli, directeur du programme de la radio Ebenezer et correspondant de l'agence France Presse Kisangani. Dites-nous, quelle est la nouvelle qui a particulièrement retenu votre attention cette semaine qui est en train de finir?
Merci Tati. Je salue, je profite pour saluer aussi les deux co-débatteurs sur place au studio à Kinshasa et Maître qui est à Paris. Mm. La ville de Kisangani a été secouée par une pénurie de carburant apparemment délibérément entretenue par certains acteurs du secteur, les transporteurs du carburant à partir de l'Est qui nous ravita ici à Kisangani, jusque même à Bumba, et la province de du Bazouélé. Et les carburants, les litres au niveau de la pompe qui se vendaient à 4 220 francs. Et du coup, d'abord, les stations ont fermé et la spéculation a gagné dans toute la ville jusqu'à vendre jusqu'à 10 000 francs congolais. Et il aurait fallu que le gouverneur de province, de retour de Haut-Touélé, là où il est allé accompagner le chef de l'État pendant, dans sa tournée, pour que ce dernier, l'autorité provinciale, arrive à forcer la main, je crois bien. C'est le terme qui convient. À forcer la main de certains
pétroliers,
vendeurs, fournisseurs de pétroliers ici à Kisangani, pour qu'ils acceptent de continuer à servir les motards et les autres communs des mortels, au moins 1-2 litres de carburant. Mais juste après, 2 jours après, apparemment la crise est en train de vouloir se réinstaller. Et pourtant, on n'a pas tiré les conséquences, les enseignements de cette situation qui est intervenue l'année passée. L'année passée, presque à la même période, quelques semaines avant la campagne électorale, au mois de novembre et décembre, la ville était plongée dans la même pénurie, jusqu'à vendre les litres de carburant à 20 000 francs congolais. Mais malheureusement, les autorités qui ont à la charge ce secteur de l'énergie, des hydrocarbures précisément, ne sont pas clairvoyants. Ces fournisseurs, ces pétroliers, selon les informations en notre possession, ils disposent des quantités importantes de carburant ici.
Donc, ils font la rétention. Chers collègues, les pétroliers de la province orientale et de la Tchopo font la rétention du stock de carburant pour majorer les prix, c'est ça?
Ça n'augure pas un climat qui pourra aider les gens à passer les fêtes de Nouvel An et de Noël et de Nouvel An dans les conditions un peu acceptables.
Merci beaucoup, cher collègue Ernest Moukouli. Nous rappelons que vous êtes directeur de programme de la radio Ebenezer et correspondant de l'agence France Presse basée à Kisangani dans la province de la Tchopo. Je me tourne vers vous, maître Charles Kabuya. Nous rappelons que vous êtes juriste senior et avocat international. Vous intervenez depuis la ville de Paris en France. Dites-nous quelle est l'actualité ou l'information qui a personnellement capté votre attention au cours de cette semaine qui est en train de finir.
Oui, Monsieur Tati, je vous remercie d'abord pour m'avoir donné cette occasion d'intervenir dans votre émission. Je suis resté focalisé sur un certain nombre de sujets actuellement au Congo, notamment les débats sur le changement de la Constitution. Et bien évidemment, le sujet que je viens d'évoquer tout à l'heure, mais qu'on va développer plus tard. Alors, au sujet du changement de la Constitution, j'avais également donné mon opinion là-dessus. C'est que aujourd'hui, nous avons une Constitution dont certaines dispositions sont inopérantes, notamment sur la territoriale. Donc, de mon point de vue, il y a un certain nombre d'articles à retoucher, parce que après un certain temps, il faut toujours faire un bilan. Il faut faire un bilan de la Constitution. Je trouve que, évidemment, il y a au niveau de la territoriale des choses qui ne fonctionnent pas. On le constate tout à l'heure. Le précédent intervenant vient de parler des problèmes liés à
la pénurie du carburant à Kisangani.
À Kisangani, donc il y a un dysfonctionnement qui fait que les autorités provinciales ne sont pas en mesure de régler un certain nombre de problèmes. Donc je pense que on doit faire une évaluation objective, je dis bien objective, et voir comment on peut peut-être corriger un certain nombre de dispositions qui aujourd'hui ne permettent pas à ce que l'État puisse pleinement assurer ses missions, parce que je pense que le pouvoir qui est donné aujourd'hui aux provinces n'est pas suivi des moyens. Donc, il faut absolument qu'on puisse faire une refonte et voir comment rendre plus efficace l'action de l'État. Alors, évidemment, c'est une question qui est très sensible, parce que derrière, je comprends que les gens, notamment les commentateurs politiques et les hommes politiques, toutes les forces politiques sont attentives en se disant peut-être qu'il y a une idée derrière la tête.
Une intention cachée, oui.
Mmh. Oui, voilà, voilà. Et, moi, je pense que on devrait sortir de cette méfiance pour en parler objectivement. De toute façon, c'est le peuple qui est souverain, qui doit avaliser ou non par référendum un changement de constitution avec des implications politiques, notamment sur le mandat présidentiel. Donc, objectivement, je suis d'avis qu'il y a des choses à revoir. Mmh. Faut-il aller dans la direction d'une modification de certains articles ou tout simplement un changement total de paradigme, pour permettre à ce qu'on puisse entrer dans une nouvelle logique de gestion, de gouvernance de la République. Voilà, c'est un peu ça.
Merci beaucoup, Maître Charles Kabuya, sur l'information ou l'actualité politique, hein, qui a captivé votre attention le long de cette semaine. Mais nous devons rappeler également que ces projets portés par les chefs de l'État depuis sa première déclaration à Kisangani dans la province de la Tchopo ne cessent de diviser la classe politique, hein, parce que il est revenu là-dessus à Lubumbashi, au Katanga, et donc l'opinion publique est vraiment divisée. On parle du changement, on parle de la modification, mais nous ne savons pas exactement quelle est l'option qui sera levé. Merci beaucoup, on vous regarde en ligne. Je me tourne vers vous, Jeringoua. Nous rappelons que vous êtes rédacteur en chef du média en ligne APAMEDIA, qui est également une radio, hein, qui est mise en ligne. Dites-nous, chers collègues, quelle est l'information, quelle est l'actualité qui a retenu le plus votre attention cette semaine?
Ah ben, cette semaine, comme nous parlons déjà du corridor de Lobito, moi je vais garder aussi mon cap toujours dans les secteurs de transport, mais cette fois-là, le transport aérien. Mmh. Parce que le samedi 1er
décembre
et Air Congo a été lancé. Eh ben, qu'est-ce que ça veut dire pour tous les Congolais? Nous avons une deuxième compagnie aérienne. Est-ce bien pour le business? Est-ce bien pour l'image des investissements
étrangers? C'est bien pour la mobilité des personnes et l'air bien à travers les pays, parce que le pays est très enclavé.
Exactement, exactement. Mmh. Et bon, à voir, il y a une nouvelle compagnie qui est arrivé et qui va travailler, qui appartient à l'État. Et sa manière de fonctionner est un peu plus meilleure que les compagnies en place, parce que déjà même le service à bord et la restauration et tout cela, ça va, ça va. Et mais on se pose aussi des questions sur les accords et les résolutions prises entre le gouvernement congolais et l'autre partie.
Ethiopian Airlines, notamment, qui a promis d'envoyer, d'allouer, d'affecter 60 avions, 60 appareils pour les transports aériens en RDC.
Ah, je n'irai pas jusqu'à parler des 60 aéronefs. Alors, je pense que je vais me limiter au point où...
Au premier appareil qui est arrivé et qui a commencé les navettes ici à travers la République.
Exactement. Alors, le premier avion qui est arrivé, et jusqu'à ce point-ci, bon, on parle qu'il est immatriculé en RDC, et nous avons vu même l'immatriculation sur l'aile, mais quand nous voyons les données du transpondeur de cet avion, l'avion est toujours éthiopien. Et vous savez, la meilleure, c'est quoi dans cette histoire? C'est-à-dire qu'il n'y a aucune chance à ce qu'un pilote congolais puisse piloter cet avion.
C'est pareil.
Ouais. De deux, il y a aussi l'aspect de l'équipage. De l'équipage, nous avons des Éthiopiens qui travaillent avec des Congolais, mais ces Congolais-là ne sont pas employés de
Ethiopian Airlines.
Non, non, de Air Congo.
Air Congo.
Ouais,
Air Congo.
Parce que Ethiopian a 49%. Ah oui, mais il y a aucune de ces personnes qui est employée. Ils sont sous-traités à travers une compagnie que j'étais le nom, hein, pour des raisons commerciales et tout cela. Et ça fait un peu peur. Pourquoi? Parce que bon, Ethiopian a eu la direction générale. Ethiopian a eu plutôt la direction des finances. Et c'est peut-être une bonne chose pour nous, hein, que qu'ils aient ces postes clés là. Bon, pour l'histoire de corruption, c'est pas nouveau, et ça arrive des décisions, de mauvaises décisions d'investissement et tout cela. Mais on se demande où est le siège de Air Congo à Kinshasa, dans les provinces.
Mmh. Parce que dans les capitales investies, la RDC a 51%.
Exactement.
Logiquement, on devrait avoir l'administration, les personnels au niveau de la compagnie.
Exactement. Mais bon, on nous a fait savoir que la partie congolaise va diriger le conseil d'administration. Ben, vous et moi savons que c'est l'exécutif qui prenne les meilleures décisions
et les
décisions clés. Alors donc, cette histoire-là est... Il y a encore des doutes.
Merci beaucoup, Jiringua. Nous rappelons que vous êtes rédacteur en chef du média en ligne APA Média. Et merci à vous tous d'avoir réagi sur les nouvelles qui ont retenu votre attention durant cette semaine qui est en train de finir. Alors, les premiers thèmes à analyser dans ces rendez-vous concernent la visite du président américain Joe Biden en Angola du 2 au 4 décembre dernier. Pour son seul voyage officiel en Afrique, Joe Biden n'a pas choisi l'Angola par hasard, parce que les enjeux sont nombreux. Les États-Unis financent un projet important de plusieurs milliards de dollars pour la remise en service du corridor ferroviaire de Lobito. Le président des États-Unis a insisté sur le fait que ce projet permettra d'accélérer l'exportation des minerais critiques comme le cobalt et le cuivre nécessaires à la transition énergétique mondiale. Et avec des délais réduits de 45 jours à 45 heures pour certaines exportations, ce corridor incarne la volonté américaine de proposer une alternative crédible aux investissements chinois, selon des sources américaines. Comment commentez-vous cette actualité? Je commence par vous, Ernest Mukuli. Nous rappelons que vous êtes directeur des programmes de la radio Eben Ezer et correspondant de l'agence France Presse basée à Kisangani. Comment commentez-vous ces sujets, chers collègues?
C'était une surprise pour moi quand je l'ai vu autour d'une table avec Félix Tshisekedi et Lorenzo. Mmh. J'ai trouvé comme si le soleil était en train de s'arrêter.
Comment ça?
Par rapport à la situation que notre pays est en train de traverser sous la barbe de même États-Unis d'Amérique. Et tout d'un coup, à quelques jours de son départ, il choisit l'Angola, il ne choisit pas l'Israël, il ne choisit pas, la Palestine ou bien bande de Gaza, il choisit l'Angola, il ne va même pas en Afrique du Sud. Et c'est quand même à la fois une surprise intéressante, mais avec, en nous prenant ça avec un peu de pincettes. Et lui-même, il a déclaré, je le cite, que c'est, il a dit, l'objectif, c'est de garantir, tel que j'ai essayé de comprendre derrière les analyses et les commentaires que les gens ont essayé d'avancer, c'est nous sommes dans l'optique ici de la transition énergétique, ça c'est
exactement.
Sûr.
Exactement. Et la RDC, chers collègues, possède 80% des gisements de tous ces minerais de l'avenir.
Tout à fait. La RDC, qui est un pays semi-enclavé, surtout dans l'exportation de ces métaux précieux, précieux aux yeux de Joe Biden. C'est pourquoi il est déplacé des États-Unis d'Amérique jusqu'en Angola, au lieu de venir en RDC. Bon, nous comprenons aussi les autres enjeux diraient ça. Donc, vous remarquez que l'objectif, c'est de garantir l'accès des minerais critiques, comme le cuivre, le cobalt, comme vous venez de dire, qui sont essentiellement pour les véhicules électriques et aussi les transitions énergétiques. Et nous devons aussi comprendre cela comme étant un pays ami qui vient nous aider parce qu'on n'a pas d'argent. Et cet investissement des États-Unis d'Amérique, aux côtés déjà d'une longue expérience des Chinois dans le même secteur, ça nous pousse aussi à avoir quelques interrogations.
Ah, c'est pour
j'aurais
des questions,
bien
voulu
que sur cette table ronde, n'est-ce pas, qu'il y ait aussi le président chinois. Parce que la Chine a l'habitude d'organiser des sommets Chine-Afrique. Et les États-Unis aussi organisent des sommets États-Unis-Afrique. Mais cette fois-là, avec cet intérêt des minerais de l'avenir, je pensais que ça devait être plus stratégique. Même, ça devait être avantageux pour notre région, ne pas parler des trois pays, la Zambie, l'Angola, surtout la République démocratique du Congo, par rapport à la percée des Chinois dans les secteurs énergétiques. Parce qu'ils doivent avoir, la Chine a au moins une avance de plus d'une décennie, hein, des décennies d'ailleurs, d'investissement dans les secteurs minéraires. Et qu'aujourd'hui, les États-Unis se réveillent à la fin du mandat de Joe Biden.
Merci beaucoup, cher collègue Ernest Moukouli. Nous rappelons que vous êtes directeur de programme de la radio Ebenezer et correspondant de l'agence France Presse basée à Kisangani. Je me tourne vers vous, Maître Charles Kabuya. Nous rappelons que vous êtes juriste senior et avocat international. Quelle est votre perception des faits sur ces vastes projets? Nous rappelons également que vous avez signé une tribune ces projets des corridors ferroviaires de l'Obito.
Alors, j'aimerais beaucoup partager l'émerveillement et l'optimisme de teinté d'un peu de doute hein, de votre de notre ami de Kisangani. Alors effectivement, j'ai signé une tribune concernant ces corridors. Alors ce que je veux dire, c'est que ces corridors n'est pas du tout, alors pas du tout, dans l'intérêt premier du Congo. Quels sont les pays qui sont en présence? Nous avons la RDC, avec, on estime, hein, plus de 100 millions d'habitants, voire peut-être même 120 millions d'habitants. C'est-à-dire que la population de l'Angola, de la Zambie et peut-être même de la Tanzanie réunie.
Exactement.
À nous seuls. Alors, où se situent ces corridors? Ces corridors se situent en Angola. Vous parliez d'investissement tout à l'heure. Ce ne sont pas 600 millions de dollars. Non, non, pas du tout. À terme, il y aura 6 milliards de dollars investis autour de ces corridors. Et ces corridors se situent en Angola. C'est-à-dire que le territoire de la RDC n'est pas du tout concerné.
Donc ça va entraîner l'évasion des capitaux.
Non seulement cela, mais aussi valorisation du territoire angolais. Parce que autour de ce corridor, il y a déjà des entreprises qui se mettent en place, des investissements américains. Joe Biden a rencontré les dirigeants d'un certain nombre d'entreprises qui vont œuvrer autour de ce corridor, dont les géants alimentaires angolais, l'entreprise Carinho, qui est le géant alimentaire, qui est en train de mettre en place une structure qui va collecter des produits agricoles à vendre dans la région, notamment en RDC, pays qui souffre d'un déficit alimentaire. Donc tous ces gens se préparent à considérer la RDC comme un marché. Non seulement un marché pour récupérer nos minéraux stratégiques, mais aussi un marché pour vendre leurs produits à la RDC. Qu'est-ce que la RDC propose en échange?
Mais en même temps aussi, Maître Charles, on est en train de développer la zone économique spéciale qui est en déploiement ici, qui a commencé à Kinshasa, dans la partie ouest, à Maluku, et qui pourra également...
Oui, ça c'est dans le cadre de notre politique économique intérieure, ce qu'on appelle les corridors ouest, qui est notre politique intérieure. Mais concernant les corridors de l'Obito, on n'a pas d'intérêt direct. On n'a qu'un intérêt limité et indirect. Je pense que nous devons prendre conscience qu'il y a des choses qui se passent et qui ne sont pas totalement dans notre intérêt.
Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup, Maître Charles Kabuya. Nous rappelons que vous êtes juriste senior et avocat international. On vous garde en ligne. Je m'oriente vers vous, cher collègue Jeringoua. Nous rappelons que vous êtes rédacteur en chef du média en ligne APAMEDIA. Comment commentez-vous cette nouvelle, hein? Et nous devons également souligner que c'est aussi une visite à caractère diplomatique parce que le chef de l'État, il l'a souligné, il a souligné le mercredi dernier qu'on ne peut parler développement sans qu'il y ait la paix, à l'est du pays surtout.
Oui, moi je pense que la visite de Joe Biden, qui intervient à une cinquantaine de jours de son départ. Rappelez-vous que Joe Biden va céder sa place à un républicain. Donc, c'est-à-dire, ils ont des avis politiques opposés. Joe Biden, avant de quitter le pouvoir, il a fait pardonner son fils qui a été accusé de beaucoup de malversations et tout cela, chose qu'il avait promis de ne pas faire. Et sachant que Donald Trump, c'est quelqu'un d'abrasif et d'impulsif et tout cela, il y aura beaucoup de retombées après son départ. Et moi, je pense que Joe Biden a d'abord créé un point de ralliement entre lui,
les deux courants,
oui,
et les démocrates et les républicains.
Ouais, ouais, pour que après le départ, après son départ, et que Trump
ne puisse pas pouvoir changer les bouger les lignes.
Exactement. Vous voyez. Et c'est comme cela. Pourquoi? Parce que on est en train de parler de l'énergie verte. Hein, dans
les minéraux de l'avenir, tout ce qui est cobalt, oui, oui, industrie,
la transition énergétique, comme on aime bien appeler. Rappelez-vous que l'un des grands soutiens de Donald Trump pour son accession à la deuxième fois à la présidence,
à la Maison Blanche,
c'est Elon Musk. Elon Musk, c'est un grand dans l'industrie technologique. Il s'est fait de Mia et apparemment donc aujourd'hui nous savons que d'après les dernières nouvelles c'est l'homme le plus riche au monde. Alors et ce n'est pas avec les tâches que Trump lui a donné de faire que Elon Musk va changer d'angle. Rappelez-vous que l'industrie technologique fait beaucoup d'argent aux États-Unis. Alors Joe Biden est en train d'aplanir le chemin et tout en mettant des garde-fous pour que Trump ne vienne pas les
enlever.
Ouais. Alors, on est en train de parler du corridor de
L'Hôpital.
D'entrée de jeu, c'est pas le seul corridor que la RDC où la RDC est affiliée. Nous avons le corridor central, par exemple, avec la FTTC et Maître Flory au Congo et tout cela. Ils ont milité ensemble avec, je pense, c'est Feu Chérubin Kendé lorsqu'il était ministre
des Transports et Voies de Communication.
Mais, exactement. En dehors de la route Dar es Salaam, dans Bujumbura, Uvinza, Uvira, le chemin de fer là qui va relier la côte est de l'Afrique jusqu'à Kindu et tout cela. Mais il n'y a pas assez de volonté. Il n'y a pas assez de volonté. Bon, parce que peut-être que le gouvernement n'a pas de moyens. Mais est-ce que nous avons fait assez notre lobbying pour tirer 1 milliard peut-être de 6 milliards que les Américains vont investir? Parce que, en vérité, le corridor de Lobito, c'est un projet congolais, mais qui a été
revêtu
d'une robe angolaise.
Exactement.
Parce
exactement.
Que l'Angola, ce n'est qu'un médium, ce n'est qu'un conduit. Ce n'est qu'un conduit, mais la vraie mission de ce corridor.
Parce que l'Angola a déjà aussi un réseau ferroviaire assez intéressant.
Exactement.
Ouais. Comparativement au nôtre.
Ouais. Et d'ailleurs, pour parler de ces cadres de Lobito, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Hein, les informations ont commencé depuis des régimes passés. Nous nous rappelons, il y avait projet d'ailleurs de standardiser, de rendre le SGR le chemin de fer à écartement standard à NRDC, acheter de nouvelles locomotives et tout cela, ben, comme d'habitude, nous avons fait à notre manière et là, ça s'arrête.
Nous, on s'y prend toujours en retard.
Exactement.
Ça, la difficulté, ouais. Oui.
Les Tanzaniens, ils l'ont fait, ils vont arriver jusqu'à Kigoma. Kigoma, c'est de l'autre côté de Kalemi sur le lac Tanganyika. Vous voyez. Et les Tanzaniens ont fait aussi avec, ils ont fait avec l'appui des Chinois. Vous voyez. C'est aussi une guerre économique entre les États-Unis et la Chine sur les minerais congolais.
Donc, il appartient à la RDC de se positionner par rapport au désenclavement du pays.
Exactement. La RDC est, la femme que tous les hommes du village sont en train de convoiter. Vous voyez. Mais est-ce la RDC est en train vraiment de se rendre compte de son importance dans tout ceci
à l'échiquier mondial?
Ouais, parce que si Joe Biden devait effectuer un voyage, ça aurait été ici en RDC. Vous voyez. Alors, nous avons un exemple, nous avons la route Kasumbalesa qui va jusque Cape Town en Afrique du Sud. Cette route est dans le Grand Katanga, c'est la route la mieux entretenue. Pourquoi? Parce parce que les minerais vont
sortent par là. Oui.
Ouais. Alors, depuis qu'on a commencé à exploiter les minerais du Katanga, qui passaient par cette route-là?
Est-ce que les villages voisinants se sont développés?
Exactement, c'est la question, c'est question que
nous
devons poser. Oui, ça c'est une question que nous devons nous poser. Et qu'est-ce que ça a changé dans nos vies de tous les jours? Et avec le corridor de Lobito, ça ne sera pas différent.
On s'est posé la même question. Ouais, est-ce que le village où la voie ferrée va traverser va bénéficier des retombées socio-économiques?
Exactement. Et notre collègue, confrère Ernest a parlé des intrants. Bien sûr, les intrants, Maître Charles vient de parler d'un géant alimentaire qui va ramener, vendre ses produits. Et pour ceux qui connaissent un peu le Grand Katanga et tout ça, il y a la forte influence sud-africaine, zambienne et tout cela dans l'alimentation et presque dans tous les secteurs, vous voyez. Et là, il y a un autre acteur qui va venir et entrer et ça, ça va tuer l'industrie congolaise.
Vous voyez, oui, ça c'est ouais. Vrai.
Est-ce que le corridor de Lobito est vraiment...
profitable aux Congolais?
Aux Congolais.
C'est la question à se poser.
C'est la question à $1 million. Alors, quand on est en train... pour moi, le corridor de Lobito, à l'état où il est, c'est un essorage à sec de la RDC. On est en train vraiment d'essorer la RDC alors qu'elle ne gagne rien.
Merci beaucoup à vous tous d'avoir émis vos avis sur le séjour du président sortant américain Joe Biden en Angola dans le cadre de la matérialisation du projet du corridor ferroviaire de Lobito. Nous allons observer une petite pause musicale en écoutant la chanson franc-congolais et par après on va revenir ici au studio pour continuer notre rendez-vous. D'écouter la chanson franc-congolais chantée par les artistes musiciens congolais en 1998. Nous clôturons en même temps la première partie de notre magazine Regard sur l'actualité de la semaine. Retrouvons-nous juste après l'édition du journal. À tout à l'heure.